Radio Pleine Lune, on revient sur les ondes dans un ciel gris menaçant, mais il fait chaud, je vous assure, le mois de juillet sera magnifique, il doit être magnifique car comme vous, on vous l'a déjà dit, je suis en vacances, on n'en a pas l'impression parce que je suis là à vous causer comme tous les mercredis, mais c'est mon dernière émission, après je m'en vais, et oui, nous aussi, tout le monde d'ailleurs s'en va, on ferme le studio, non pas tout à fait, en tout cas, ici à Radio Pleine Lune, en femme, en général, on prend les vacances. Vous savez, les femmes, c'est comme ça, c'est terrible. Elles prennent tout le temps des vacances. Bah, après, on s'étonne qu'elles ne fassent pas carrière. Enfin, toujours à se plaindre. Bon, en tout cas, dans quelques instants, les nouvelles. Alors, Marie-Ange, tu te dépêches? Tu es prête à lancer la musique?
Oui, oui, je me dépêche. Je vais lancer la musique et par la suite, tout le reste.
Et c'est parti, on femme, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Nos nouvelles, à Genève, les syndicats montent au front pour protester contre les conditions de travail du personnel de la vente, en un mot, les vendeuses. La révision de la loi sur les heures de fermeture des magasins à Genève a fait l'objet d'un questionnaire largement diffusé auprès du public à l'initiative du département de l'économie publique dirigée par M. Maître. Aujourd'hui, deux syndicats, l'Association des commis de Genève et la Fédération suisse des travailleurs des transports et de l'alimentation, prennent la plume pour défendre les intérêts des vendeuses et des vendeurs. D'ailleurs, signalons que le peuple genevois a quand même refusé l'ouverture nocturne des magasins. Alors, on revient quand même sur le tapis. Voilà à quoi servent les votations. Les horaires du personnel de vente sont beaucoup trop astreignants, en ce sens qu'ils sont la plupart du temps répartis sur 6 jours de travail. Ils viennent de surcroît se greffer sur des salaires qui demeurent trop bas, se plaignent les syndicats. Deux revendications essentielles animent aujourd'hui les syndicats pour le personnel de vente. La semaine de 5 jours et une revalorisation des salaires. La première demande est conditionnée à la suppression de la demi-journée de fermeture obligatoire prévue par la loi. Une meilleure compétitivité économique et des horaires plus souples pour les consommateurs passent par l'octroi de meilleures conditions de travail pour les vendeuses et les vendeurs, notent les syndicalistes. L'objectif syndical actuel est donc clair, l'actuelle réforme doit profiter aux vendeuses et aux vendeurs, pour lesquels il ne saurait être question de prétériter davantage les conditions de travail qui sont encore parmi les plus difficiles que connaît notre canton.
Le débat sur l'avortement en Pologne. En avril de l'année dernière, une initiative pour un projet de loi interdisant l'avortement tout court a été lancée par des groupes liés à l'Église catholique et liés à des groupes ultranationalistes. Solidarité même s'est déclarée favorable à restreindre l'actuelle loi sur l'avortement. Celle-ci, elle date de 1956, permet aux femmes polonaises d'avorter quand elles apportent la preuve qu'elles sont dans l'impossibilité d'éduquer un enfant. Or, dans la pratique, étant donné que les moyens de contraception sont introuvables ou trop chers sur le marché en Pologne, l'avortement est devenu libre et gratuit dans les hôpitaux publics. Il est vrai qu'il y a des médecins privés et des cliniques privées qui font des avortements contre de l'argent. Selon les chiffres du ministère de la Santé, le nombre d'avortements s'élève à 300 000 par an, ce qui représente la moitié des grossesses annuelles. Les adversaires à l'avortement se sont regroupés dans une association pro-life, oui à la vie, qui bénéficie du soutien financier de l'organisation jumelle américaine. Bien que le débat autour du projet de loi anti-avortement n'ait pas encore eu lieu au Parlement et que le texte de la loi n'ait jamais été publié, le ministère de la Santé publique a promulgué en mai de cette année des nouvelles restrictions au droit d'avorter. Avant de pouvoir avorter, la femme doit maintenant obtenir le consentement d'un médecin et d'un psychiatre. Face à cette politique du fait accompli, plusieurs organisations de femmes, dont le club Cobiette, club des femmes, se sont regroupées pour lancer une vaste campagne d'information sur les moyens de contraception, la sexualité et sur le droit à l'avortement. Elles ont également l'intention de lancer le débat à l'intérieur de Solidarność, qui est resté très en majorité en faveur de ce que croit l'Église et de ce que pense l'Église, c'est-à-dire ils sont plutôt anti-avortement. Ces femmes font valoir que l'interdiction d'avorter va encore empirer la situation déjà très précaire des femmes. Le nombre d'avortements restera le même et se fera sur le dos de la santé des femmes et remplira les poches des médecins privés. Face à l'énorme pouvoir social que représente l'Église catholique en Pologne et face à la campagne incessante de celle-ci contre l'avortement pour laquelle de gros sous sont à sa disposition, les mouvements pro-avortement sont encore très isolés en Pologne. L'Union suisse pour la décriminalisation de l'avortement a adressé une pétition contre l'interdiction de l'avortement adressée au Parlement polonais. Cette pétition exige le droit des femmes au libre choix d'avorter ou pas et la disposition de moyens de contraception suffisants et sûrs. Cette pétition a déjà reçu le soutien de plus de 2000 signatures venant d'organisations de femmes, de médecins et de politiciennes de 24 pays différents.
En Israël, des centaines de femmes palestiniennes et des jeunes masqués se sont battus contre la police israélienne anti-émeute durant le week-end dans le quartier de Silwan à Jérusalem lors de manifestations décidées après la mort d'un jeune Palestinien. La police paramilitaire a utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestantes et manifestants qui lançaient des pierres, brûlaient des pneus, bloquaient les rues et déversaient de l'essence dans ce quartier montagneux de Jérusalem-Est. Les manifestants criaient « la police dehors » et brandissaient des drapeaux. 3 manifestants ont été blessés et plusieurs autres arrêtés. Toujours en Israël, l'organisation israélienne des droits de l'homme B'Tselem dénonce dans un rapport les conditions de détention et d'interrogation à Jérusalem des mineurs palestiniens. Dans ce rapport établi après une visite dans les 2 centres d'interrogation de la ville sainte par des représentants israéliens de l'Association internationale pour les droits des enfants, il est fait état de cellules baptisées par les interrogateurs des services de sécurité, les toilettes et la tombe. Des nombreux témoignages de mineurs détenus rapportent qu'ils ont été enfermés, un sac de jute sur la tête et les mains liées dans le dos pendant des heures dans une cellule d'1,50 m de côté. D'autres font état d'une autre cellule baptisée la tombe par leurs interrogateurs, une sorte de caveau obscur creusé à même le sol dans lequel les détenus ne peuvent se tenir qu'assis, le dos courbé. La porte d'acier de cette cellule permet d'éviter à l'extérieur les odeurs d'éviter à l'extérieur les odeurs nauséabondes des excréments s'accumulant sous les prisonniers. Selon le rapport, tous les mineurs interrogés sont régulièrement battus, giflés, coups de poing et de pied, coups de matraque et de barre de fer, menottés, les mains dans le dos et attachés à des canalisations dans des positions inconfortables, enfermés le cas échéant pendant des heures dans les cellules dites punitives. Des nombreux jeunes détenus, selon le rapport, signent à la suite de menaces contre leur famille des confessions en hébreu qu'ils ne comprennent même pas. Interrogés, la police nie les mauvais traitements ainsi que l'existence des cellules surnommées « les toilettes et la tombe », mais reconnaît la surpopulation dans les prisons. Au Japon, création d'une université pour les futurs maris. Keiko Higuchi, professeure à l'Université pour l'éducation familiale et leader du mouvement des femmes, a été chargée il y a 2 ans de mettre sur pied une université pour les hommes à Tokyo. Il s'agit d'enseigner aux hommes l'art de conquérir les nouvelles femmes japonaises. C'est à l'instigation de ces femmes, toujours moins satisfaites de leurs compagnons, que ces cours ont été organisés. Au Japon, où les cours pour apprendre aux femmes à être parfaites, belles, soumises, sont coutumiers, les choses et les femmes surtout ont bien changé et plus de 3 millions d'hommes célibataires recherchent femmes désespérément. Les femmes, elles, n'en veulent plus de ces maris entièrement dédiés au travail et à l'entreprise et surtout, elles affirment de plus en plus leur indépendance. Dès sa mise sur pied, ce cours a été donné à guichet fermé et 80 hommes diplômés viennent d'en sortir. Le programme comprend des cours sur les modifications culturelles, sociales qui touchent le Japon et surtout les femmes et la famille. Et surtout, on donne des éléments de psychologie pour réapprendre aux hommes fatigués les valeurs de la vie. Cette université, c'est une vraie révolution pour un pays aussi patriarcal que le Japon, dit son initiatrice. Mais la réalité, c'est que les hommes japonais sont en crise. Ils n'arrivent plus à se marier, ils ne comprennent rien aux femmes. En tout cas, les inscriptions aux cours ne cessent d'augmenter. En Inde, des hommes s'organisent contre les femmes. Naissance en Inde d'une organisation pour défendre les hommes des abus commis par les femmes. Ça s'appelle le Front indien contre les crimes des femmes contre les hommes. 2000 personnes en Inde ont d'ores et déjà adhéré à ce parti, à ce front, et chaque jour, l'organisation reçoit plusieurs téléphones d'hommes se plaignant d'être maltraités par leurs femmes. Pour eux, si les femmes sont plus faibles physiquement, elles savent faire beaucoup plus de mal psychologiquement. Et puis, elles mentent au tribunal, forçant les pauvres hommes à payer des amendes et même à aller en prison. Et puis, elles sont corrompues par les films et la télévision. Elles osent revendiquer le droit de continuer à travailler même après être mariées, de sortir sans leur mari, d'aller au cinéma, d'aller voir leurs parents, de s'acheter du maquillage. Ah, les salopes! Un grand pas vers l'égalité entre hommes et femmes franchi, les femmes fument presque autant de tabac que les hommes et ont presque autant de cancer du poumon. Et vive l'égalité! Lorsque le tabagisme n'était pas aussi répandu chez les femmes que maintenant, les femmes ne souffraient pour ainsi dire jamais de maladies cardiovasculaires ou de cancer du poumon. La situation a malheureusement changé et le tabagisme tue plus d'un demi-million de femmes chaque année dans le monde industrialisé. Mais il devient une cause de plus en plus répandue de mauvaise santé aussi chez les femmes des pays en voie de développement. Une conférence de l'OMS a conclu que le nombre des victimes du tabagisme à travers le monde était de 2,7 millions par année. Elle a également prévu que si les conditions demeuraient inchangées, le nombre total des victimes en 2025 pourrait atteindre 8 millions par année, dont une large part parmi les femmes. Car les femmes qui fument comme les hommes mourront comme les hommes. L'OMS estime que le taux de tabagisme chez les femmes est le même que chez les hommes actuellement, soit d'environ 30% dans les pays industrialisés. Et même dans ces pays, les jeunes filles fument même plus que les garçons. Dans la plupart des pays en développement, heureusement, l'épidémie ne semble pas encore avoir atteint les femmes. Mais au fur et à mesure que les cigarettes deviennent disponibles et que la publicité est plus importante, les tendances se modifient. Bien entendu que la fumée provoque les mêmes maladies chez les deux sexes et les différences entre les taux de mortalité s'amenuisent régulièrement. Et oui, c'est fini le temps où les femmes vivaient tellement plus vieilles que les hommes. Ces 20 dernières années, la mortalité par cancer du poumon chez les femmes a plus que doublé au Japon, en Norvège, en Pologne, au Royaume-Uni et en Suède. Elle a augmenté de plus de 200% en Australie, au Danemark et en Nouvelle-Zélande et de plus de 300% au Canada et aux États-Unis. En outre, les fumeuses sont plus exposées au cancer du col de l'utérus et des maladies cardiovasculaires qui touchent beaucoup plus les fumeuses que les autres femmes. Et celles qui, en plus de fumer, utilisent en même temps un contraceptif oral, alors celles-là, elles sont mal parties. Le tabagisme affecte la fonction de reproduction des femmes et accroît les risques de ménopause précoce, de fausse couche et de procréation d'enfants de poids insuffisant. Il s'agit bien entendu maintenant de prendre des mesures pour essayer de décourager les hommes et les femmes de fumer. Mais pour cela, on se heurte aux puissances des multinationales du tabac. Car le tabac est une industrie multinationale de plusieurs milliards de dollars. C'est aussi une industrie menacée, dès lors qu'on sait qu'à long terme, un quart de ses clients meurt par suite de l'utilisation de ses produits et que le tabagisme est en baisse dans un nombre de pays industrialisés. Pour maintenir leurs profits, les compagnies de tabac doivent compter au moins 2,7 millions de nouveaux fumeurs chaque année, généralement des jeunes. Quant aux femmes, elles ont été clairement identifiées comme groupe cible de la publicité en faveur du tabac, dans les pays industrialisés comme dans les pays en voie de développement. Chaque année, des milliards de dollars sont dépensés pour promouvoir ce produit mortel auprès de femmes. Les marques des cigarettes pour femmes seulement, une publicité tapageuse montrant des femmes belles, séduisantes, triomphantes, en train de fumer, les cadeaux gratuits de produits à la mode et le patronage de sports et autres événements féminins, comme des défilés de mode par les grandes firmes de tabac, font toute partie de la stratégie mondiale du marketing industriel destinée à attirer les femmes ou à conserver leur clientèle. Cette stratégie a été exploitée par divers journaux sur le tabac, publiant des articles sur la façon d'attirer les fumeuses et suggérant aux détaillants de bien soigner ces dames. Alors Marie-Ange, quand est-ce que tu arrêtes de fumer ?
Eh bien, lorsque je lirai dans les journaux que les accidents ménagers ils sont moindres que le tabagisme, pour l'instant, la première cause d'accident dans le monde, c'est les accidents ménagers. Par exemple, nettoyer les vitres, on court un risque immédiat de dérapage. Et si immédiat que si on descend dans le cinquième étage, on ne va pas plus voir à compter. On ne mourra pas du tabac.
D'ailleurs, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison, les nettoyages sont très très dangereux et ça vise plus spécialement les femmes suisses puisque en Suisse vraiment on lave plus blanc, on utilise des savons par million, jamais l'industrie du savon n'a été aussi florissante. Le marché suisse des savons et des détergents est complètement saturé. Les ventes ont atteint 163 000 tonnes de savon par année en Suisse. Quant au chiffre d'affaires des fabricants, il a progressé de 4,3%. Alors un bon conseil, ne vous lavez pas cet été. Et pour terminer, si vous ne savez pas quoi faire cet été, si vous vous ennuyez, si vous restez dans cette ville à vous promener et vous ne savez pas quoi faire, eh bien voilà une petite nouvelle que j'ai lue dans le journal et qui m'a donné quelques petites idées pour, pourquoi pas, agrémenter un été un peu ennuyé. C'est une petite fée d'hiver qui est arrivée hier après-midi dans une banque de la rue de la Confédération à la Société de Banque Suisse pour ne rien vous cacher. Un paquet suspect est signalé dans les toilettes. La police est immédiatement alertée. Elle se rend sur place accompagnée d'un groupe de dépiégeage. Le dernier soumet l'objet à diverses vérifications. Des gouttes de sueur perlent. La tension monte. Minute de suspense. Ouf, soulagement. Il ne s'agit que de l'ange enveloppé dans du papier de toilette. Amusez-vous bien. C'était les nouvelles de la Radio Pleine Lune dans 3.8 MHz. Radio Pleine Lune qui vous dit pour les nouvelles, bonnes vacances. On se retrouve au mois de septembre, mais la soirée n'est pas finie. Marie-Ange vous a concocté un programme d'été absolument époustouflant. Si vous vouliez partir, eh bien, allez immédiatement annuler vos billets. Il faut rester dans la région. Et puis, bien sûr, de la musique et autour de 20h, une interview sur l'histoire du mouvement des infirmières au Canada et en Europe.
You're not worthy of my love. Feel the pleasure. Look me round and round. I've got my honor. I won't let you bring me down. More than a woman. More than a woman enough. More than a woman.
Radio Pleine Lune, Radio Zone 93.8 MHz. Avant de passer au rendez-vous des femmes et aux autres rendez-vous de cette semaine, j'avais envie de vous parler du dernier numéro de Frauenkritik, qui est le journal féministe suisse-allemand. Ce numéro 34 de juin, juillet, août, est consacré aux femmes artistes en Suisse. Les femmes artistes en Suisse. Alors, un article de Anne-Lise Zwes, qui est une théoricienne, une historienne d'art. Elle a fait un article très intéressant. Elle retrace la situation et l'activité des femmes artistes dans les années 70 et 80 en Suisse. Elle montre dans cet article que le nombre de femmes qui se sont engagées dans les années 70 dans le monde de l'art a augmenté, et surtout dans les années 70, parce que, dit-elle, dans les années 70, il y avait quand même l'introduction du vote pour les femmes qui a été introduite. La percée du mouvement des femmes a fait que vraiment les femmes ont commencé en tant que femmes de se manifester dans le monde des arts. Et même et maintenant, en fait, dans les années 80, l'évolution a continué. Mais même si le nombre des femmes artistes donc, est élevé en Suisse, les institutions culturelles de la Suisse n'ont pas enregistré cette évolution, n'ont pas tenu compte. En effet, la présence de femmes dans les programmes des musées suisses reste infime. Même dans les musées où les directeurs ou même les directrices sont favorables aux femmes. Alors, je vous donne tout de suite quelques noms de musées où les directeurs sont des femmes. C'est le musée d'Ittingen ou le musée de Helmhaus à Zurich. Il y a d'autres musées, disent-elles, qui justement essayent de faire un effort pour exposer des femmes. C'est la Kunsthalle de Bâle et le Kunsthaus de Zurich. Mais même si les musées, donc, ou à la tête des musées, il y a des gens qui sont favorables aux femmes, le nombre d'expositions consacrées à celles-ci représente que 16% des expositions. De même, sur le plan fédéral, alors qu'en 1988, 45,8% des artistes qui ont participé au concours pour l'obtention d'une bourse fédérale étaient des femmes, dont 45,8% étaient des femmes, elles ne représentent que 17,8% des heureuses gagnantes de cette bourse fédérale. Frauenkritik, toujours donc sur ce sujet des femmes artistes en Suisse, nous présente un portrait de 6 artistes, peintres et sculpteuses, il y a des illustrations de leur œuvre, et puis une petite phrase, elle explique comment elles vivent, ce qu'elles font, et la plupart en fait de ces femmes disent qu'en fait elles doivent travailler en plus de leur engagement dans l'art pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Frauenkritik, c'est donc le centre du journal numéro 34, c'est les femmes artistes en Suisse. Et il y a d'autres articles, notamment une histoire très triste, très dure, d'une femme lesbienne qui raconte en fait ses méfaits qu'elle a habitant dans une petite ville près de Schaffhouse. On en a parlé dernièrement dans les journaux. Les personnes qui vivent un peu à la marge de la société, mais aussi les antimilitaristes, les écologistes et tout, sont menacés ces derniers temps par des appels anonymes. Je parle mal.